conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Alexandre Chirier. Bonjour Alexandre.
Bonjour Myriam.
Vous êtes président de la foncière de transformation immobilière du groupe Action Logement, une nouvelle dynamique, une nouvelle création. Vous allez nous expliquer quand même un petit peu tout cela dans la mesure où nous sommes dans une transformation de la société. Nous sommes dans une période assez, mouvante, mutante. Et donc, cette initiative d'Action Logement et cette création vient à propos, n'est-ce pas ?
Tout à fait. La transformation bureau en logement est un sujet qui s'est levé avant la crise sanitaire, mais qui prend aujourd'hui une actualité beaucoup plus forte du fait de l'accélération du télétravail notamment, mais pas seulement. Donc le groupe, il y a quelques années, en 2018 exactement, 2019, a décidé d'adresser ce sujet face à la complexité, aux freins que rencontrait la transformation bureau en logement, et a décidé de déployer massivement des moyens financiers, 1,2 milliard d'euros.
Oui, c'est pas rien.
C'est pas rien. Mais surtout, au-delà de cette capacité d'investissement, a été décidé de créer un outil opérationnel parce que c'est un sujet qui demande une ingénierie assez
énorme,
fine.
Bien sûr.
Énorme. Pour pouvoir accompagner les opérateurs dans cette transformation de logement, les opérateurs, mais bien évidemment aussi les territoires.
Alors avant d'accompagner les territoires et les opérateurs, il faut trouver les produits. Alors justement, vous parliez de la crise, vous parliez du télétravail. Ça veut dire aujourd'hui que vous avez pléthore de produits en France à votre disposition pour pouvoir faire votre marché ?
Alors la bonne surprise, c'est qu'on fait un démarrage express.
D'accord.
Pourquoi fait-on un démarrage express ? Bon, déjà parce qu'il y a du besoin, il y avait déjà des immeubles quelque sorte en stock,
obsolète,
vide, qui ne se transformait pas. Et puis, on voit arriver progressivement d'autres opportunités, puisque les marchés sont complètement bousculés par cette crise sanitaire, même s'il y a un petit temps d'inertie. Alors, pourquoi nous avons beaucoup d'opportunités ? 250 opportunités. Je rappelle que la foncière a été...
Vous n'allez pas chômer,
créée...
vous allez parler un peu de votre équipe.
Voilà, la foncière a été créée en juillet 2020. Les premiers collaborateurs sont arrivés en septembre et nous avons entré 250 opportunités. Nous en avons encore 80 en carnet d'affaires et sur ces 80, nous en avons 30 acquises ou en cours d'acquisition.
Alors ça veut dire sur les 250 opportunités, vous en avez évincé certaines. Vous avez considéré après un diagnostic technique et financier qu'elles n'étaient pas propos.
C'est un diagnostic global, due diligence, comme on appelle dans le monde anglo-saxon de l'immobilier. Il y a de la faisabilité économique, il y a de la faisabilité technique, il y a de la faisabilité politique, on y reviendra je pense tout à l'heure,
l'acceptation
des territoires de cette nouvelle offre de logement. Et puis aussi, il faut se mettre d'accord avec le vendeur. Et on y arrive souvent, mais pas tout le temps.
Ben oui, justement, parce que ces vendeurs, ils ont quand même ce bâtiment, ces bâtiments, ces terrains autour, parfois, dans leurs actifs. Comment fait-on pour créer une envie de vendre, une envie de transformer son actif en produit, en finance, et puis, quelque part, transformer un petit peu sa propre entreprise ?
Je pense que le système est assez holistique. En fait, vous me posiez la question, comment on prospecte ? On a construit une proposition de valeur qui est respectueuse des métiers et des modèles économiques.
Rentrer dans le détail un petit peu, c'est important,
voilà.
Justement, cette valeur.
Donc, en fait, on adresse, que ce soit les propriétaires, les opérateurs de logement, les territoires, on travaille avec ses partenaires dans une proposition de valeur pour chacun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les propriétaires, nous sommes en capacité, nous foncières, d'aller faire une offre compétitive d'acquisition, au moins aussi compétitive que celle que fera un promoteur. Le promoteur maximisant la programmation qui apporte le plus de chiffre d'affaires pour offrir...
Vous êtes plus vertueux ?
On est plus vertueux parce que nous, on peut l'acheter au même prix en maximisant le logement abordable. Le premier bien brin de notre ADN, c'est le logement abordable pour les salariés. C'est vraiment... Bah, c'est l'ADN du groupe.
Bien sûr, bien sûr.
On nous demande d'être là. On peut faire de la mixité dans la production de ce qu'on accompagne, dans les productions de ce qu'on accompagne. Mais nous, on doit avoir une part prépondérante de logements sociaux ou intermédiaires. Et on y arrive. Et ça ne dégrade pas la proposition financière qu'on fait aux propriétaires. Parce qu'on a un modèle économique qui nous permet de l'amortir.
Est-ce que le propriétaire peut rester, on va dire, actif, copromoteur, entre guillemets, ou co-constructeur de cette histoire, hein.
Alors,
est-ce qu'il peut transformer son actif bureau en actif patrimonial, logement ?
Pour partie, nous n'intervenons que s'il y a une part de production de logement social et ou intermédiaire. Donc, s'il peut être bailleur de logements sociaux et ou intermédiaire, il peut rester dans le long terme. Mais nous pouvons, d'une manière générale, avec l'ensemble des opérateurs, les foncières, les asset managers, les grands propriétaires, les CPI, etc., nous pouvons construire des partenariats qui apportent un levier de valeur pour chacun, sachant que nous, ce que nous poursuivons comme valeur, c'est de la valeur sociétale, c'est de produire du logement. On est tout à fait compatible. Pourquoi ? Parce qu'on utilise les techniques, alors ce terme est barbare, hein, mais de la financiarisation de l'immobilier, comme le font tous ces acteurs de notre environnement. La différence,
et vous le rendez plus vertueux ?
La différence, la différence, c'est que c'est pas tant vertueux, faut pas porter du jugement de valeur. C'est important de bien comprendre comment fonctionnent les acteurs, les professions, leur stratégie. Eux, leur mandant, leur donne dans leur stratégie, leur demande un rendement par rapport à des investissements. Nous, le groupe, nous alloue 600 millions d'euros de fonds propres sans nous demander de rémunération de ces fonds propres. Donc, du fait qu'on ne rémunère pas ces fonds propres, ça nous fait un effet de levier pour répondre à la commande qui est de produire du logement abordable.
Et est-ce que ça veut dire que vous restez absolument qualitatif, justement, voilà,
et du logement de qualité, nous sommes très crédibles. Et c'est ce qui fait la confiance que nous accordent les collectivités, parce que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait l'acceptation de la collectivité, il faut qu'on les accompagne. Et nous, on a un modèle économique sur lequel on est très crédible sur les engagements qu'on prend. On peut allonger la durée du bail à construction. C'est le moyen qu'on utilise pour neutraliser la charge foncière.
Voilà, c'est ce que j'allais évoquer.
J'y reviendrai après. On peut allonger la durée de ce bail à construction pour accueillir un surcoût pour intégrer des matériaux vertueux comme le bois, la pierre ou d'autres
matériaux. Et rendre monnayables, par exemple, les mètres carrés qui vont être démolis, parce qu'on sait très bien que la plupart des immeubles de bureaux ont des épaisseurs, on va dire, importantes, pas toujours compatibles avec les logements traversants de qualité. Comment fait-on justement pour que ces mètres carrés deviennent monnayables ?
Myriam, vous voulez tout savoir en même temps.
Eh ben oui, je suis gourmande, vous savez.
Je vois ça. Sur ce sujet-là, effectivement, on est confronté, comme d'autres, aux trames des immeubles, aux contraintes techniques, aux modes constructifs qui font la facilité ou la moindre facilité de la transformation. On privilégie la transformation par rapport à l'enjeu environnemental. Parfois, on est obligé de faire de la déconstruction, il faut se le dire. Alors, l'interrogation, effectivement, c'est quoi ? Mais c'est quoi le logement post-Covid demain ? Parce que le télétravail, il a deux faces. Il a une phase bureau va accélérer l'obsolescence d'un certain nombre d'actifs. Et puis, il a une phase logement. Mmh. Et c'est quoi le logement demain quand on a un ménage qui a un ou deux jours de télétravail, des enfants qui sont à l'université qui vont aussi avoir du télétravail, etc. Et ça, aujourd'hui...
Ça veut dire qu'on met le coworking à l'intérieur
Par exemple, on est en train de réfléchir comment, dans ce logement post-Covid, on arrive à créer, dans le logement unitaire lui-même ou dans l'immeuble, des endroits, des espaces qui peuvent répondre à ce point-là. Avec une question, c'est comment on le monnaie, effectivement, qu'il faut amortir tout ça. Mais moi, je pense que c'est sur la question du logement, on sait qu'on en manque, ça revient de manière petite, etc.
Et là, d'une manière cruciale.
Je pense que notre enjeu collectif, c'est d'arrêter de produire du règlement qui doit s'appliquer partout, parce que ça dévie les projets vers ces règlements, vers ces dispositifs de financement, et puis il faut produire de l'intelligence et de la confiance.
C'est-à-dire quelque part, comme si là aujourd'hui on va peut-être être bientôt confiné, et donc on fait à la carte, on va dire, selon les régions, il faudrait faire la même chose pour le logement ou pour la transformation de bureaux en logement en étant vraiment avec une réglementation à la carte ?
Alors, réglementation de la carte, je pense qu'il faut des fondamentaux. Voilà, il faut, comme toute entreprise, tout architecte, tout journaliste, on a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, il faut qu'on ait une agilité pour les opérer par rapport au contexte territorial, au contexte de projet, et puis par rapport au moment où on est. Et je leur dis, j'aime bien cette formule, c'est produire de l'intelligence et de la confiance, parce que ça va ensemble. Si vous produisez de la confiance, et c'est pour ça qu'on est très bien reçu par les collectivités locales, par les élus, on rencontre peu de résistance au fait, parce que on a construit un modèle qui permet de s'adapter à ce contexte territorial. On ne va pas, je vous donne un exemple, Myriam, mais je suis sûr qu'il va vous parler. Nous ne sommes pas obligés d'aller chercher le dernier mètre carré de constructibilité que permet le PLU. Etc. Mmh. Mais c'est terrifiant pour les collectivités locales. Après, on leur reproche de mettre des règlements trop compliqués, etc. Mais ils sont obligés de faire ça pour se protéger parce que... Voilà,
Alors, comment vous accompagnez les élus sur la transformation de bureaux en logements? Ils sont obligés, évidemment, de passer par le fait de faire une modification de PLU. Est-ce que vous les accompagnez dans ce sens aussi? Est-ce que vous, sur des zones un peu plus importantes que simplement un bâtiment dans le diffus?
Alors, on travaille aujourd'hui sur des projets de grande ampleur, hein, qui pourraient se rapprocher un petit peu de l'aménagement, bien évidemment. Et on accompagne les collectivités. On a une offre en ingénierie. On n'est pas seulement un investisseur qui crée un effet de levier. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, important pour les très très important pour les bailleurs sociaux, mais pas seulement. Et pour les territoires, cette offre d'ingénierie, on la met aussi à disposition, s'ils le souhaitent, en amont, pour les conforter dans leur stratégie de transformation urbaine. C'est majeur.
Alors, c'est un accompagnement aussi qui pourrait permettre aux élus de faire de la communication, entre guillemets, sur ce type de modification, de transformation?
Oui, de la communication, oui, mais c'est surtout de pouvoir avoir les éléments de langage et une vision pour faire adhérer leur municipalité, faire adhérer leur population à ces transformations. Parce qu'il faut qu'on fasse des choses qui sont utiles à la ville. Moi, je suis un peu dur quand je dis, mais il faut arrêter d'insulter les territoires et les gens. On a fait trop de choses qui ne sont pas de qualité et aujourd'hui, on a de la résistance par rapport à la construction.
Vous parlez doucement à mes oreilles, mais je ne suis pas sûre qu'on je pense qu'on va avoir le temps lors de notre deuxième interview de développer un petit peu les choses, surtout sur les leviers pour les bailleurs, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai sujet auquel vous tenez et qui peut vraiment intéresser les auditeurs. Écoutez, je veux bien que vous parliez deux minutes de votre équipe quand même, parce que vous avez quand même une super équipe.
Hein. J'ai une super équipe, j'ai une dizaine de personnes qui sont arrivées en trois mois.
Comme ça, en trois mois, oui.
Voilà, qui apprennent tous de nouveaux métiers parce qu'on est très protéiforme, on fait...
Et ça fait sens.
Et ça fait sens, mais ils sont ravis d'être là, ils sont, je vais prendre le terme, excités par le boulot et surtout la finalité de ce boulot-là. Et je vais lancer 15 recrutements, j'ai besoin de développeurs, de monteurs.
Alors là, vous êtes au bon micro, vous savez.
Oui, écoutez, Myriam, j'en profite.
Vous avez raison.
Il faut être réactif et j'en profite, effectivement, on cherche du talent, on cherche des talents et surtout qui savent travailler en équipe, en collectif, parce qu'on se construit chaque jour expertises, une expertise et surtout une manière de dialoguer avec l'ensemble des acteurs qui amènent à la performance.
Alexandre, je vous prie de m'excuser, nous allons devoir faire une deuxième interview parce que je sens quand même poindre certains sujets que nous n'avons pas pu aborder. Merci chers auditeurs et à bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.